Antoine Marès est historien spécialiste de l'Europe centrale et notamment des relations franco-tchèques. Il est revenu au micro d'Anna Kubishta sur le parcours de Václav Havel et notamment sur ses liens avec la France. Mais il lui a d'abord précisé ce que le président dramaturge disparu représentait pour lui.
Écoutez, Václav Havel, pour moi, il représente la résistance, la dissidence tchèque, ce que j'en ai entendu parler bien sûr très tôt, notamment par Pavel Tigride à Paris. Mais en fait, je l'ai rencontré seulement après 1989. Je l'ai croisé dans les salons de l'ambassade de France une première fois. Et puis la dernière fois que je l'ai vu, c'était à la présentation d'un ouvrage, Le fantôme de Munich, qui venait d'être traduit en tchèque. Et j'étais assis juste à côté de lui à l'Institut français de Prague. Il était en compagnie de Miloš Forman et le projet qu'ils avaient, c'était d'adapter ce roman et d'en faire un film. Le projet d'ailleurs ne s'est pas réalisé pour des raisons que j'ignore.
Vous êtes spécialiste notamment des liens entre les pays tchèques et la France.
Oui.
Est-ce que vous pourriez un petit peu nous rappeler quels étaient les rapports et quels étaient les rapports qu'entretenait Václav Havel avec la France?
Je dirais que les rapports étaient un peu inégaux. J'ai l'impression que l'attraction de Václav Havel pour la France était moindre que celle des Français pour Václav Havel. J'en veux pour preuve que la nouvelle de son décès il y a deux jours a fait les premières de tous les journaux français. Et ça me paraît assez significatif. Je pense que Václav Havel, et ce n'est pas porter un jugement de valeur sur sa trajectoire ou sa réflexion, Václav Havel était beaucoup plus attiré par le monde anglo-américain que par la France. En revanche, en France, très tôt, il a été très très connu, très apprécié, traduit, beaucoup joué. Je crois que les milieux de théâtre ont fait énormément pour le soutenir.
Il me semble que d'ailleurs dans les années 80 hein, ou peut-être 70 même, il
absolument
a été joué en Avignon.
Tout à fait en Avignon, mais aussi à Chaillot. Je me souviens de lectures auxquelles participaient Michel Onstal et d'autres. Ces pièces étaient mises en scène, donc il y avait un lien très très fort, et je pense que l'émotion, en particulier dans les milieux intellectuels, a été très forte depuis l'annonce de son décès.
Il faut rappeler également peut-être brièvement que le président François Mitterrand avait accueilli Václav Havel et d'autres dissidents lors d'un déjeuner, un petit déjeuner à l'ambassade de France à Prague. Est-ce que vous pourriez un petit peu rappeler dans quelles circonstances ça s'est déroulé?
Absolument. François Mitterrand avait pris le parti de développer sa politique à l'égard des satellites de l'Union soviétique et démocratie populaire. Et il était allé dans plusieurs de ces pays, il est allé en RDA, il est allé aussi en Tchécoslovaquie, ce qui à l'époque lui a été très très reproché. Mais en décembre 88, lorsqu'il est venu à Prague, il a exigé de pouvoir rencontrer les dissidents. La diplomatie française a fait une forte pression sur ses interlocuteurs tchèques, mettant cette présence des dissidents à l'ambassade comme condition au voyage. Et je pense que quand François Mitterrand et son entourage a eu ce déjeuner, il n'imaginait pas que moins d'un an plus tard, il retrouverait le président Havel à la tête de l'État tchécoslovaque.
Alors justement, Václav Havel, en effet, dramaturge, dissident, devenu président quasiment presque malgré lui, c'est ce que parfois lui-même disait. Pourquoi justement Havel s'est imposé en 1989 comme leader hein, plutôt qu'un autre?
De mon point de vue, il était quand même le dissident le plus en vue. Il était relativement jeune parmi ceux qui avaient initié la charte de 77, puisque Jan Patočka était déjà décédé. Une autre grande figure, Václav Černý, avait également disparu. Il était quasi naturel qu'il s'impose face aux autres. Et puis par une volonté de rupture aussi, je pense, avec ceux qui avaient été plus associés au pouvoir. C'était tout le problème de la rivalité, entre guillemets, entre Alexandre Dubček et lui-même. Et puis la troisième raison, me semble-t-il, c'est qu'il est apparu aux yeux des Tchèques comme une sorte de continuateur de l'esprit massaricain. Et tout cela combiné, me semble-t-il, explique très largement l'arrivée de Václav Havel à la tête de l'État, alors que rien ne le prédestinait à rentrer véritablement dans la politique.
Comment expliquez-vous cette espèce de désamour qui finalement a un peu envahi les Tchèques pendant sa présidence, alors que lui-même finalement ne se faisait aucune illusion sur l'exercice du pouvoir? Il savait que c'était un exercice périlleux qui n'apportait pas que des lauriers finalement.
Je dirais peut-être une chose tout à fait générale, c'est qu'il y a l'usure du pouvoir. Et puis, un certain nombre de gestes qu'il a faits n'ont pas été compris ou ont choqué l'opinion. Je pense que son attitude à l'égard de l'Allemagne a été mal ressentie par une partie, en tout cas, de l'opinion. Sa vie personnelle aussi, je crois que l'attachement des Tchèques à sa première épouse était très, très fort. Bon, le fait qu'il se soit si vite remarqué en a choqué certains. Donc c'est une multitude, je crois, d'éléments qui expliquent qu'il y a eu une certaine prise de distance. Et puis il ne faut pas oublier non plus que l'homme avait beaucoup souffert dans les prisons communistes et qu'il était affaibli. Donc peut-être n'a-t-il pas pu donner toute sa mesure non plus comme homme politique, en particulier lors de son second mandat.
Pour terminer, quel est selon vous aujourd'hui, au moment où Václav Havel vient de disparaître, son héritage?
Alors je crois que c'est plus un héritage symbolique qu'un héritage pratique, politique. Ce qui restera vraisemblablement de lui, c'est son concept du pouvoir des sans-pouvoirs, c'est-à-dire de la possibilité pour une opinion publique, pour une nation, de résister et finalement de l'emporter. Ça me paraît être le point essentiel. Et puis le deuxième élément, c'est la leçon de courage qu'il a donnée à ses compatriotes tout au long de sa vie.
C'était Antoine Marès au micro d'Anna Kubishta.